premier mois de l'année, qui s'appelle le mois de Tishri, c'est un mois qui est extrêmement riche en festivités. Vous avez d'abord Rosh Hashanah. C'est le début de l'année, le nouvel an, mais sans toute l'idée de festivités habituelles. En fait, Rosh Hashanah, c'est un jour austère, solennel, puisque selon la tradition, c'est au jour de Rosh Hashanah que chaque homme porté par cette terre est appelé à comparaître en jugement devant Dieu. C'est le jour anniversaire de la création d'Adam, et c'est donc aussi en ce jour-là où, pour la première fois, Adam a péché. C'est donc depuis les prémices de l'histoire de l'humanité que ce jour de Rosh Hashanah est désigné comme étant un jour d'examen de la conscience, d'introspection. C'est un jour de retournement existentiel pour tenter de façonner sa personnalité avec plus de vertu, plus de morale et plus d'éthique. Ensuite, vous avez la fête de Kippour. Alors Kippour, c'est 10 jours plus tard. C'est un jour extrêmement pénible physiquement, puisque c'est un jour de jeûne pendant 25 heures. Les fidèles ne mangent pas, ne boivent pas, ne portent pas des chaussures en cuir, ne se lavent pas. Ils sont d'une certaine manière détachés de toutes les préoccupations matérielles pour mieux se concentrer ou se reconcentrer sur la spiritualité, sur l'âme qu'ils portent en eux. Si Rosh Hashanah était le jour de la célébration du commencement, Kippour serait le jour du recommencement possible, puisque c'est au jour de Kippour, nous dit la tradition, que Dieu a pardonné aux enfants d'Israël la fameuse faute du veau d'or. Et donc c'est un jour où les fidèles se retrouvent dans les maisons de prière pour demander pardon à Dieu, mais pas seulement à Dieu. Demander pardon les uns aux autres, et nos textes nous disent même que Dieu ne peut pas accorder son pardon si l'homme lui-même n'a pas fait le pas vers autrui pour lui demander pardon pour tout ce qu'il lui aurait fait durant l'année écoulée. Rosh Hashanah et Kippour, ce n'est pas simplement lié à la notion de regret, mais ces fêtes sont également orientées vers l'avenir. Il s'agit de s'engager pour l'avenir, tenter de nourrir son être de plus de spiritualité et lui faire découvrir les trésors de l'esprit et de foi en Dieu. Et ensuite, vous avez la fête de Soukhot. Alors cette fête de Soukhot tranche considérablement par rapport aux deux premières. C'est une fête de l'explosion de la joie. La fête de Soukhot est censée rappeler les 40 années de traversée dans le désert des enfants d'Israël, puis l'établissement en terre promise.
Est-ce que ces fêtes sont l'occasion de célébrations particulières ?
Alors la fête de Rosh Hashanah, c'est une fête où on sonne dans une corne de bélier. Il est question de souffle, parce que Rosh Hashanah, c'est aussi le moment où on est censé reprendre un nouveau souffle ou un second souffle. Et en même temps, cela renvoie bien à la création de l'homme tel qu'il est décrit par le livre de la Genèse, à savoir que Dieu a insufflé l'âme de la vie dans les narines d'Adam. Ça, c'est pour la fête de Rosh Hashanah. Concernant la fête de Soukhot, il y a deux rites particuliers. Le premier rite, c'est la soukha, petite cabane. En effet, pendant 7 jours, la Bible demande à ce que l'on quitte les demeures fixes, nos belles maisons, pour aller s'établir dans une cabane au toit composé de végétaux, et donc une demeure extrêmement éphémère qui renvoie à la vulnérabilité, à la fragilité de l'existence humaine. Ce sont vraiment des moments de rencontre existentielle avec l'humanité en général et avec son humanité, c'est-à-dire avec soi-même. Le deuxième rite de la fête de Soukhot, c'est l'ordonnance biblique de balancer dans les 4 coins cardinales, en haut et en bas, le bouquet des 4 espèces avec la branche de palmier, la branche de saule, la branche de myrte et le fruit du cédrat. C'est une certaine manière d'exprimer le fait que Dieu est à l'origine de la création. Ce sont des moments extrêmement importants parce que tout au long de l'année, les moyens techniques et technologiques souvent font oublier l'être humain qui n'est qu'un être humain. Eh bien, les fêtes de Tishri sont là pour rappeler à l'homme son humanité inhérente à sa vie et son obligation de se tourner vers la source de toute vie, c'est-à-dire vers le Créateur.
Est-ce que ce sont également des événements familiaux ou communautaires ?
Alors dans la tradition, la famille est intimement liée à la vie religieuse. Et donc forcément, forcément, il y a des réunions communautaires, d'abord par les prières à la synagogue, et les fêtes, elles, sont toujours en famille. C'est un moment de transmission des valeurs, des connaissances, du passé, d'une histoire, d'un projet. Et là aussi, c'est un point très important. Souvent, aujourd'hui, les conflits de génération, c'est quelque chose de tellement fréquent et de tellement triste. Il y a dans l'année des moments de rencontres intergénérationnelles et s'unir dans une même prière, c'est tellement toujours beau de voir plusieurs générations ensemble s'adresser à celui qui dépasse toutes les générations.
L'Église catholique ainsi que certaines églises protestantes encouragent leurs fidèles à envoyer leurs vœux aux communautés juives. Que pensez-vous de cette initiative ?
Écoutez, c'est un mouvement qui épouse parfaitement la dimension universelle de la fête de Rosh Hashanah, qui, comme nous l'avons dit, c'est un jour de jugement, pas simplement pour les hommes et les femmes de confession juive, mais de l'ensemble de l'humanité, parce que, rappelons-nous, Adam n'était pas juif, il n'était pas musulman, il n'était pas chrétien, il est le père de l'ensemble de l'humanité, et il y a un très beau texte rabbinique qui dit, finalement, Dieu a créé le premier homme tout seul. Mais pourquoi n'a-t-il pas créé plusieurs Adam, plusieurs êtres humains ensemble ? Et la réponse que donnent nos maîtres est la suivante, c'est que finalement nous avons tous un seul et même père pour qu'aucun homme puisse dire à son prochain « mon père était plus grand que le tien ». L'enrichissement des connaissances mutuelles ne peut que favoriser et pacifier les relations humaines dans ce monde et nous savons combien nous aspirons, nous tous, à la paix des cœurs, également à la paix des mains et de l'ensemble des consciences.